Onde durable.
Terrain commun, récit d'écologie populaire.
À la rencontre de celles et ceux qui font vivre une écologie populaire au quotidien.
Ancrée dans les territoires, les pratiques et les récits.
Bonjour à toutes et à tous. Comment le droit à une alimentation égalitaire, accessible et durable est-il garanti et appliqué en France ? Il faut savoir que notre pays, comme l'ensemble des États européens, s'est engagé pour ce droit à l'alimentation sur son territoire. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Luc Bodigel, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS. Luc Bodigel qui est spécialisé dans l'évolution du droit et des politiques agricoles et alimentaires. Mais tout d'abord, direction le campus du Tertre à Nantes Université. Alors que plus d'un étudiant sur cinq ne mange pas à sa faim, selon le dernier bilan dressé par la Fédération des associations générales étudiantes, eh bien depuis 2019, une épicerie solidaire s'est montée pour justement permettre à ces étudiants d'accéder à des produits de première nécessité et de pouvoir étudier dignement. Ce projet s'appelle la Surprenante Épicerie. Rencontre tout de suite avec Amy Bussy, présidente de cette épicerie et étudiante elle-même. Un reportage signé Julie Judet de Prune, votre radio associative locale à Nantes et à Saint-Nazaire.
Donc la Surprenante Épicerie, c'est donc le nom de l'association, avec un éléphant qui est notre mascotte de l'association.
Il y a 100 cadeaux là.
Donc on a essayé de vraiment organiser ça telle une épicerie qu'on pourrait trouver dans notre quartier, c'est-à-dire avec des étagères plutôt par type, donc sucré, on va avoir tout ce qui est des viennoiseries, le salé, des pâtes, du pain, des fruits, des légumes.
On a donc des pommes, on a des patates.
Dans les frigos, le frais et le congelé, on a un congélateur aussi, et aussi une étagère avec les produits d'hygiène.
Donc voilà, voilà.
Pour Noël, on a mis des guirlandes lumineuses, on a mis... juste ici, on a Pachou, c'est notre éléphant de notre association, et puis ouais, des guirlandes, un petit peu de déco de Noël.
Je veux bien que tu ailles au carton et à la poubelle.
Donc l'objectif principal, c'est lutter contre la précarité étudiante, justement.
Bonjour.
La précarité étudiante, elle se divise en plusieurs parties. Donc il y a tout ce qui est l'alimentaire, il y a le logement, il y a la santé. Nous, on se concentre beaucoup sur l'alimentaire aujourd'hui, mais on essaye aussi d'aborder la santé. On a eu l'intervention d'infirmiers de Nantes Université, en fait, qui sont venus parler du dispositif Ta santé est essentielle. En fait, c'est des médecins qu'on peut avoir gratuitement pris en charge, en tout cas, pour nous, les étudiants. Donc voilà, on essaie de faire des petites actions comme ça pour faire connaître aux étudiants des dispositifs qui sont pour nous. Donc ça pour la santé, pour l'hygiène, comme je vous ai dit, on essaie au maximum de récolter des produits d'hygiène de base, du savon, beaucoup de serviettes hygiéniques et de tampons. Il y a plein de profils différents, on a beaucoup de personnes qui sont étrangères, qui sont nouvelles ici. On a aussi des personnes qui sont, si je puis dire, un peu moins dans le besoin, mais qui le restent quand même, parce que nous, on estime qu'à partir du moment où on est étudiant, aujourd'hui, on peut estimer qu'on est en précarité. À partir du moment où nous sommes étudiants, peu importe si on vit chez nos parents, peu importe si on est au CROUS, peu importe si on a des bourses ou non, on a tous des vies complètement différentes. Et ouais, l'étudiant aujourd'hui à Nantes Université, on voit bien, manger c'est pas facile, la vie coûte cher. Et puis l'accès à l'hygiène, hein, franchement je reviens dessus, mais ça coûte très cher les produits d'hygiène en fait, le savon... le sopalin et puis encore une fois les produits menstruels, et ça c'est des choses qui sont pas du tout accessibles à tous. Très souvent, lorsque les étudiants connaissent une précarité, grande ou pas, ils sont obligés de travailler à côté de leurs études. Travailler plus de 20 heures par semaine, ça avait un grand, grand, grand impact sur les études. Et que souvent, ces personnes-là devaient arrêter ou rater leurs études. Puis on a... Beaucoup d'étudiants sont seuls et moi je pense beaucoup surtout aux étudiants étrangers qui ne parlent pas bien français, et c'est pour ça qu'on a aussi des bénévoles qui sont étrangers qui justement peuvent échanger avec les personnes plutôt anglophones souvent, et ça permet d'avoir des discussions pour tout le monde quoi.
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des petits Père Noël en chocolat aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal.
Et donc l'aire surprenante, c'est vraiment devenu un lieu d'échange et de rencontre avec les étudiants.
C'est la bonne humeur, c'est la convivialité. Ça ramène toujours le sourire d'avoir un petit chocolat, surtout en cette période avant examen. C'est hyper important.
Et puis un des gros objectifs aussi, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire de manière générale, parce que nos partenaires justement donc sont en grande partie la Banque Alimentaire et Phoenix qui nous fournit les fruits et légumes des invendus des supermarchés. Donc les fruits et légumes qui sont pas beaux, que les gens ne veulent pas acheter, qui ont un défaut, mais qui sont totalement consommables. Et donc il y a aussi tout cet aspect où ramasser tout ce que les magasins, les grandes surfaces ne peuvent pas vendre parce que c'est pas assez joli. Et donc ça évite beaucoup de gaspillage parce que par exemple à Phoenix, tous les lundis matins, on récupère environ 40 kilos de fruits et légumes. On a un compte Instagram qui est la surprenante épicerie. Tous les dimanches soirs, avant les ouvertures de la semaine, nous postons un lien sur Instagram pour que les étudiants puissent s'inscrire. Alors, fonctionnement critiqué ou non, on ne fait pas de choix ou de tri dans les étudiants. On ne demande pas de relevé, on ne demande pas d'avis d'imposition des parents, on ne demande rien de tout ça. On demande juste d'être étudiant à notre université. Quand ils arrivent, ils ont leur billet, donc comme quoi ils ont bien réussi à s'inscrire, et une carte étudiante ou un certificat de scolarité, ça nous suffit amplement. Nous, on est là pour aider des étudiants, le statut, donc voilà, on ne fait pas de distinction particulière. Il n'y a rien à payer, même pas un euro, rien du tout. C'est vraiment juste être étudiant et pouvoir s'inscrire le dimanche soir. Il y a énormément de demandes, beaucoup plus que nos moyens, malheureusement. Ça part trop vite parce que nos tickets partent en moyenne en 6-7 minutes le dimanche soir pour 100 places.
Ah, si vous aviez pris 2 billets, vous avez pris un billet lundi et aujourd'hui.
Oui, lundi.
En fonction de nos stocks, on estime qu'on ouvre une fois par semaine ou deux fois par semaine. Cette semaine, on a ouvert deux fois parce que c'est Noël et que c'est les dernières distributions de l'année. Donc on a ouvert lundi pour 100 personnes et aujourd'hui mercredi pour 100 personnes aussi. Donc nous, notre principal partenaire aujourd'hui, c'est la Banque Alimentaire. Tout ce que vous voyez ici, ça vient de la Banque Alimentaire. Donc par exemple, cette semaine, ils ont donné 574 kilos de produits, tout confondu. Sans compter les fruits et légumes aussi qu'on se procure par Phoenix. Et là, on a environ 30-40 kilos le lundi matin quand on y va. Parce que le lundi, du coup, on a eu le week-end. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'invendus.
Du savon. Et ensuite, je ferai tirer au sort un cadeau à gagner.
Ok. En tant qu'étudiante qui est connue aussi des situations compliquées, c'est important, je pense, de nous contacter. Enfin, en fait, de pouvoir parler à quelqu'un, à une structure, parce que on peut répondre à des questions, même ce qui ne touche pas forcément à l'alimentaire, mais de santé, on a des contacts. En termes de logement, on a des contacts avec des assistantes sociales. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites. En fait, le message vraiment que je veux faire passer, c'est que vous pouvez ne pas être seul. Enfin, vous pouvez être accompagné avec quelqu'un. Et ça peut être nous.
Au revoir, bonne journée.
Okay.
Bonjour. Pour Noël, on vous propose un petit chocolat et un cadeau.
Okay.
Ça t'intéresse? Je te laisse choisir un chocolat.
Ça au
choix. Ensuite, je te ferai tirer au sort un cadeau.
Donc, pour tout ce qui est alimentaire, donc voilà, c'est vraiment le but principal de l'épicerie. C'est pour ça que c'est une épicerie d'ailleurs. Mais il y a aussi tout un domaine social où les étudiants sont très seuls, sont parfois malheureux. En fait, tout est lié. Hein. Quand on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas se doucher, forcément, ça entraîne des situations psychologiques très compliquées. Donc, par exemple, pour Noël, c'est vrai que nous, on propose aux étudiants un temps un peu plus convivial en offrant notamment des cadeaux qui sont derrière vous, qu'on met en pochette, des chocolats de Noël, voilà, qu'on offre à tous les étudiants. Là, cette semaine, c'est 200 étudiants qu'on accueille. Et c'est 200 sourires qu'on a à chaque fois.
Tu préfères une peluche ou tu sais pas ce que...
Voilà pour ce reportage à la surprenante épicerie sur le campus du Tertre à Nantes Université. Alors, sur cette notion de droit à l'alimentation sur son territoire, censé être garanti dans notre pays, de quoi parle-t-on exactement ? Sa définition ne se limite pas uniquement à être à l'abri de la faim. Il renvoie plus largement au droit de se nourrir soi-même, dans la dignité et à la garantie pour toutes et tous d'un accès égal, durable, suffisant adéquate et choisie à la nourriture dans le respect de l'environnement et des générations futures. Voilà pour la définition. Mais pour aller plus loin sur ces notions et sur son application en France, Julie Judet de Prune a interrogé Luc Bodiguel, directeur de recherche au Centre National de Recherche Scientifique, le CNRS. Luc Bodiguel, spécialisé dans l'évolution du droit et des politiques agricoles et alimentaires.
Bonjour Luc Bodiguel.
Bonjour.
Je vais revenir sur la définition avec vous. Donc, je donnais en introduction à une définition du droit à l'alimentation. Cette définition, qui est défendue notamment par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, repose sur des exigences fortes en termes d'égalité, d'accessibilité, de durabilité. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que recouvrent finalement ces exigences et surtout en quoi elles viennent changer, modifier le système alimentaire actuel de la terre à l'assiette?
Alors je vais essayer de vous présenter ça. Il y a quatre critères effectivement qui sont généralement adossés à la définition des Nations Unies, au sein du Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Et c'est effectivement la disponibilité. Alors la disponibilité, c'est qu'il faut qu'on ait d'abord des denrées. Et avoir des denrées en volume, après on verra peut-être la question de la qualité, mais déjà en volume. Et là, la question de la disponibilité, elle est pensée de façon très différente selon qu'on la pense au niveau mondial ou qu'on la pense au niveau local. Et par conséquent, il faut regarder un petit peu toutes les dimensions pour savoir quand est-ce que la nourriture est véritablement disponible. Parce que justement, après, il faut que cette nourriture, elle puisse être... récupérer par les personnes, acheter, troquer dans d'autres pays. Et c'est la question de l'accessibilité. Il faut que je puisse avoir accès. Et la question de l'accès est assez importante puisque je peux avoir des millions de tonnes de céréales qui sont produites et je peux ne pas y avoir accès. Donc on pense effectivement généralement aux conflits, aux catastrophes climatiques, mais ça peut être tout simplement lié aussi à des localisations. Par exemple, les géographes travaillent sur la question des marécages ou des bourbiers alimentaires, c'est-à-dire ces zones où, en fait, on n'accède pas à la nourriture parce que près de chez soi, il n'y a pas de magasin, tout simplement. Ou alors, ce qui existe, c'est simplement ce qu'on appelle la junk food, donc des distributeurs de nourriture ultra transformée, voire de consommer sur place ou à emporter chez soi, mais caractérisée généralement par des qualités assez, assez médiocres.
Et est-ce que ça renvoie aussi à la question des moyens financiers pour avoir accès à cette nourriture-là?
Évidemment, autant la disponibilité renvoie à la question des volumes et de la possibilité d'apporter de la nourriture en quantité et en diversité. La question de l'accessibilité est directement liée à la capacité des personnes à payer la nourriture. Et ce qui va d'ailleurs poser un certain nombre de problèmes, par exemple, si on décide de dire que tout le monde doit pouvoir bénéficier d'une nourriture de qualité, de denrées alimentaires ou agricoles de qualité, et qu'à cette qualité, on associe des prix plus importants, pas seulement parce que les coûts de production sont plus importants, je pense au bio par exemple, mais parfois parce qu'on fait beaucoup plus de marge sur ces produits, puisque le consentement à payer est plus important. Du coup, les populations qui sont dans des situations plus compliquées du point de vue économique et social, auront des difficultés d'accès à ce type d'alimentation. Donc, c'est pas seulement une question d'accéder à la nourriture pour tout le monde et à toute la nourriture, mais à certains types de nourriture, à certaines denrées alimentaires et agricoles que concerne la question d'accessibilité. Et en fait, on se rend compte que ces critères, ils sont essentiellement faits pour dans un but pédagogique, mais ils sont tous liés ensemble. Parce que le caractère adéquat, par exemple, qui est le troisième critère, le caractère adéquat, c'est un caractère qui avait été complètement oublié et pourtant, par exemple, qui a une importance fondamentale, notamment, par exemple, dans le cadre de l'aide caritative, l'aide alimentaire caritative, puisque si je distribue de la nourriture à des personnes dont la culture, qu'elle soit d'ordre social, familial, religieuse, interdit ou empêche de se nourrir avec ces aliments-là, évidemment, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, le caractère adéquat d'un aliment, c'est... cet aliment ou cette denrée alimentaire, exactement, ou alors ce produit agricole, on va peut-être distinguer un petit peu tout ça, ce produit agricole puisse évidemment être saisi par les personnes, correspondre à leur culture et être cuisiné par ces personnes. Et c'est à relier directement avec la question de la démocratie, que si l'aide alimentaire, on pourra y revenir sur l'aide alimentaire, est réalisée de façon descendante par des organismes qui pensent ce qui est bon et bien pour manger, bon, on a un peu sorti de ça depuis longtemps quand même, grâce à l'évolution des organismes caritatifs, et des banques alimentaires. Mais si ces personnes-là ne sont pas présentes dans les discussions pour dire « moi, j'ai besoin de tel type d'aliments, c'est ce type d'aliments que je mange », eh bien, évidemment, l'adéquation de l'alimentation proposée et la réalité de l'alimentation des personnes ne doit pas fonctionner. Et le quatrième critère, c'est la durabilité. Et la durabilité, c'est bien une agriculture et une alimentation qui normalement devrait avoir un impact environnemental limité, garantir que toutes les personnes puissent, et là on rejoint l'accessibilité, puissent manger correctement des produits, non seulement des produits tout venant, je dirais, mais aussi donc conventionnels, mais aussi des produits de qualité sanitaire et de qualité environnementale, et puis des produits qui s'appuient sur une, on va dire, des filières économiques qui fonctionnent et qui sont viables. Parce que la durabilité, c'est bien trois volets, hein, au minimum, l'environnement, le social et l'économique. La question principale va être de savoir si, avec d'autres formes d'agriculture, on peut répondre aux autres critères, notamment à la disponibilité. Et la question a été posée il y a plusieurs années de ça. Est-ce que l'agriculture bio peut nourrir le monde ? Il y avait eu un rapport de l'ONU en ce sens, disant que c'était possible. Maintenant, la question, ça va être de dire, mais quel bio ? Quel type d'agriculture biologique ? Si c'est une agriculture biologique extensive ou une agriculture biologique intensive, qu'est-ce qu'on aura comme produit au bout et est-ce qu'on aura un impact limité sur l'environnement, notamment puisqu'on sait que le bio, par exemple, pose d'autres problèmes, utilise des produits, des intrants, qui sont évidemment des intrants d'origine naturelle, mais là aussi on peut discuter, on sait qu'il peut y avoir des pollutions liées aussi au bio si jamais on l'utilise de façon trop intensive. Donc la réponse n'est pas simple, elle n'est pas évidente. Ce qui est certain, c'est que il faut développer des formes d'agriculture qui pèsent le moins possible sur les écosystèmes environnants, biodiversité, climat, air, terre, etc. Et que sans doute que des exploitations bio à une échelle relativement humaine, je dirais pas forcément petite, mais humaine, ou agroécologiques qui font extrêmement attention au cycle du vivant, sont sans doute plus durables que d'autres. La question, c'est est-ce qu'ils sont durables du point de vue économique, et notamment aujourd'hui dans un système où l'agriculture est enserrée dans des marchés globaux dans lesquels parfois certaines formes d'agriculture ont de la peine à s'insérer.
Vous utilisez le terme de démocratie tout à l'heure, et donc de démocratie alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi il s'agit et quel type de rapport à l'alimentation recouvre ce terme-là aussi, de démocratie alimentaire ?
Je pense aux travaux, par exemple, notamment de Dominique Paturel, des profs à Montpellier, qui a beaucoup essayé de travailler à partir de comment on aide les personnes en précarité alimentaire sur la base de ce qu'on appelle les études du CARE, le fait qu'on fasse attention un peu aux gens qui sont autour de nous, à développer des travaux autour de la nécessité de remettre les bénéficiaires de l'aide alimentaire directement dans le jeu de la décision les concernant. Alors ça peut être, et il y a beaucoup de banques alimentaires qui ont fait ça, ou d'associations caritatives qui aujourd'hui ont réintégré les bénéficiaires de l'aide alimentaire à l'intérieur de le dispositif de décision.
Dans le système qu'on connaît aujourd'hui, capitaliste, mondialisé, parfois opaque, hein, et comment est-ce que c'est possible d'appliquer, de faire respecter le droit à l'alimentation ? Quelle est la responsabilité des États dans l'application du droit à l'alimentation ?
Ce n'est pas une obligation, parce que le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels et les observations qui sont liées au droit à l'alimentation ne sont pas d'application directe dans les États. Ça veut dire que pour qu'il puisse véritablement devenir une obligation, il faudrait qu'on l'intègre dans le droit, soit par le biais du droit de l'Union européenne, puisque c'est un droit qui s'intègre et qui s'incorpore dans nos droits nationaux, hein, il en fait partie, soit dans nos droits nationaux. Et on en est loin.
Vous venez d'écouter Terrain commun, récit d'écologie populaire.
Une collection de reportages produite par la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne.
Et la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, dans le cadre du projet Ondes Durables.
Ces reportages sont à retrouver sur ondes-durables.fr.
Onde Durable est un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir les alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts.